Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Monde Aujourd'hui, édition du 20 novembre 2014, en direct de Washington, chez Rubin Dorcil et Camille Gros-Didier. Bonsoir.
Bonsoir. Les grands points de l'actualité au Niger. Attaque terroriste attribuée au Moujao.
Un bilan non officiel fait cas d'un sous-officier tué et 3 blessés côté forces armées nigériennes. Aucun bilan, par contre, n'a été fourni du côté des assaillants.
Il n'y aura pas de dualité au sommet du pouvoir à Ouagadougou. Le président burkinabé Michel Kafando, invité aujourd'hui de VOA Afrique.
On a appris
que Blaise Compaoré n'est plus en Côte d'Ivoire et il s'est rendu au Maroc.
Et au Mali, l'opposition durcit le ton contre Ibeka et réclame la fermeture temporaire de la frontière avec la Guinée.
Le bilan de la tempête de neige s'alourdit dans le nord-est des États-Unis.
Et nous aurons les sports et bien sûr la musique en fin d'émission, mais tout d'abord le journal.
Nouvelle attaque terroriste au Niger. Dans l'après-midi du mercredi, la localité de Banibangou, située à environ 200 km de la capitale Niamey, à la frontière malienne, a été prise d'assaut par les hommes armés à bord de motos. Ils seraient venus du Mali voisin. Aucun bilan officiel pour le moment, encore moins l'identité des assaillants, même si l'attaque a été revendiquée par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao. On fait le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Très peu d'informations à filtrer de cette attaque. Les quelques rares sources contactées difficilement à Banibangou ont affirmé que les assaillants venus en moto s'en sont pris aux installations des compagnies de téléphonie qui sont sur place, de sorte que la communication était presque impossible. Selon toutefois un élu local que la Voix de l'Amérique a pu joindre, l'attaque a visé le camp de la gendarmerie et celui de la garde nationale. Un bilan non officiel fait cas d'un sous-officier tué et 3 blessés côté forces armées nigériennes. Aucun bilan, par contre, n'a été fourni du côté des assaillants. Un communiqué de l'état-major des armées nigériennes est attendu sur cette attaque, revendiquée en mi-journée par le Moujao. Selon des sources militaires, 2 hélicoptères de l'armée nigérienne ont été déployés à la frontière avec le Mali, d'où seraient venus les assaillants. C'est la deuxième attaque en l'espace d'un mois dans cette zone, la première ayant fait une dizaine de soldats nigériens tués. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour la Voix de l'Amérique.
Au Nigeria, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène à l'intérieur du Parlement juste avant un vote sur une prolongation de l'état d'urgence. Dans le nord-est, Idriss Fall.
Les agents des forces de l'ordre ont tenté d'empêcher Aminu Tambuwal, président de la Chambre, d'entrer dans le bâtiment abritant le Sénat et la Chambre des représentants. Le Parti démocratique du peuple au pouvoir lui conteste le droit de présider la Chambre puisque M. Tambuwal est maintenant passé dans l'opposition. Il a rejoint le Congrès progressiste et a vivement critiqué l'état d'urgence. Selon lui, depuis l'instauration de la mesure en mai 2013, la violence s'est poursuivie et la situation a même empiré dans les états de Borno, Yobe et Adamawa où Boko Haram contrôle plusieurs localités. Les députés devaient se prononcer sur une proposition du président Goodluck Jonathan de prolonger pour 6 mois l'état d'urgence pour contrer Boko Haram. Le vote n'a finalement pas eu lieu et le Parlement est fermé jusqu'à la semaine prochaine.
La présidence ivoirienne a annoncé que l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, son épouse et des membres de leur famille ont quitté Yamoussoukro aujourd'hui pour le Maroc. Monsieur Compaoré a quitté le pouvoir le 31 octobre suite à un soulèvement populaire. Par ailleurs, le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, a affirmé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de dualité à la tête de l'État burkinabé, malgré le choix d'un homme fort de l'armée comme Premier ministre. Il sera notre invité dans la seconde partie de cette édition.
Le nombre des morts dus à l'épidémie d'Ebola s'élève à 5420 dans 6 pays d'Afrique, plus les États-Unis et l'Espagne, selon un nombre total de 15145 personnes infectées par le virus, selon le dernier bilan de l'OMS. Jean-Roger Bion.
Le Libéria reste le pays le plus touché par l'épidémie avec 2964 morts sur 7069 cas, suivi de la Sierra Leone. D'après l'AFP, l'OMS a recensé dans ce pays 1250 morts sur 6073 cas enregistrés. C'est également le pays d'Afrique où la transmission de l'épidémie demeure intense et très étendue, avec 533 nouveaux cas en une semaine. Au Mali, dernier pays touché par le virus, l'OMS fait état de 6 cas qui ont provoqué 5 décès. Le Nigeria et le Sénégal ont été retirés de la liste des pays où sévit l'épidémie. Le bilan des décès pour les membres du personnel de santé s'est encore aggravé, avec 329 morts sur 584 cas. Ici aux États-Unis, 4 cas ont été enregistrés, mais un patient libérien de retour de son pays est mort des suites de la maladie selon le bilan arrêté au 16 novembre. Par ailleurs, un médecin sierra-léonais évacué sur les États-Unis est mort il y a 3 jours. L'Espagne a connu un cas d'infection, une aide-soignante qui s'était occupée de 2 missionnaires contaminés et rapatriés à Madrid, où ils sont morts en août et en septembre. L'infirmière a depuis été déclarée guérie.
Médecins sans frontières affirme avoir renforcé son équipe et élargi ses activités au Mali suite à la détection le 11 novembre à Bamako d'un nouveau cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Si l'on souhaite endiguer rapidement toute nouvelle épidémie, il est urgent d'intervenir, avertit MSF. Par ailleurs, on vient d'apprendre le décès à Bamako du docteur Diomandé, médecin ayant contracté l'Ebola après avoir soigné un imam atteint du virus.
Le ministre de l'Intérieur congolais, Richard Muyeye, a dénoncé le rapport de Human Rights Watch qui a fustigé la mort d'au moins 51 personnes et la disparition de 33 autres lors d'une vaste opération policière à Kinshasa de novembre 2013 à février 2014. L'ONG a reproché à la police congolaise d'avoir abattu de sang-froid les suspects, tandis que d'autres étaient victimes de disparitions forcées. Mais Richard Muyeye a estimé publiquement que le rapport s'inscrit dans une logique de, et je cite, « diabolisation, de lynchage médiatique, de chantage éhonté et d'humiliation contre le gouvernement de la République et le peuple congolais ».
En Zambie, la veuve et le fils de l'ancien président zambien Michael Sata, décédé fin octobre, se sont tous deux proposés pour être candidats du parti au pouvoir à la présidentielle anticipée du 20 janvier. Au moins 7 candidats sont sur les rangs pour représenter le Front patriotique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry affirme que les puissances mondiales sont unies dans leur recherche d'un accord sur le programme nucléaire de l'Iran alors qu'approche la date butoir fixée pour la conclusion d'un tel accord. Lionel Gaïma.
John Kerry a tenu à souligner que l'on veut un accord, mais pas n'importe quel accord. Il parlait aujourd'hui à Paris, après une réunion avec les ministres français et saoudiens des affaires étrangères. M. Kerry devait par la suite se rendre à Vienne pour participer au pourparlers entre l'Iran et les représentants du P5 plus 1, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine, France, Russie et Allemagne. Ils ont jusqu'à lundi pour arriver à l'accord global qu'ils négocient depuis un an. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté toutes les parties à faire preuve de la flexibilité, de la sagesse et la détermination nécessaires pour conclure un accord mutuellement acceptable qui rétablira la confiance dans la nature pacifique du nucléaire iranien. Entre-temps, à Vienne, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano, a annoncé que l'Iran ne fournit pas des explications suffisantes sur ses recherches nucléaires.
La Russie accuse les États-Unis de chercher à déstabiliser la situation en Ukraine en projetant de fournir des armes à Kiev pour appuyer son combat contre les séparatistes aidés par Moscou. Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexander Loukachevitch, a déclaré aujourd'hui que si Washington venait à modifier sa politique actuelle, qui est de fournir au gouvernement ukrainien une aide non létale pour commencer à lui livrer des armes, ce serait, et je cite, un facteur de déstabilisation grave qui pourrait sérieusement affecter l'équilibre des forces dans la région. Les deux chambres du Congrès américain sont favorables à une aide militaire américaine au gouvernement ukrainien, mais pour l'instant, l'administration Obama s'est abstenue de la fournir.
La Russie tente de relancer les négociations entre le gouvernement syrien de Bachar al-Assad et l'opposition. Un haut responsable syrien a déclaré à l'AFP que le président Vladimir Poutine recevra mercredi prochain une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères Walid Mualem pour discuter de la reprise des pourparlers. Des rencontres en janvier et février baptisées Genève 2 entre Damas et l'opposition syrienne avaient tourné à un dialogue de sourds.
La Corée du Nord menace de procéder à un nouvel essai nucléaire en réponse à la condamnation par l'ONU de Pyongyang en matière de droits humains. La résolution d'une commission de l'Assemblée générale demande au Conseil de sécurité de référer le cas nord-coréen à la Cour pénale internationale pour crimes présumés contre l'humanité. La Corée du Nord qualifie ce vote de provocation politique grave et accuse les États-Unis de diriger une campagne visant à humilier Pyongyang et renverser le régime en place.
Fusillade ce jeudi dans une grande université du sud des États-Unis. Des centaines d'étudiants préparaient leurs examens dans la bibliothèque de l'Université d'État de Floride quand un inconnu a ouvert le feu, blessant 3 personnes avant d'être abattu par la police.
Le président Obama doit présenter ce soir les mesures qu'il a décidées pour régulariser une partie des 11 millions d'immigrés sans papiers aux États-Unis. La nouvelle majorité républicaine au Congrès estime que M. Obama va mettre en péril toute coopération possible en gouvernant par décret.
Voilà pour le journal. Il est 18h41, temps universel, 13h41 ici à Washington. Chez Ruben Dorcil et Camille Gros-Didier, en votre compagnie, restez branchés pour les dossiers.
Une mise à jour, il est 19h41 en temps universel.
Twitter. Au Burkina Faso, passation de pouvoir demain entre le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, qui détient le pouvoir depuis le 31 octobre, et le président de la transition, Michel Kafando. Ce dernier répond aux questions d'Idriss Fall.
Non, en fait, cette cérémonie était prévue bien avant longtemps, avant même que la Premier ministre soit investie. Malheureusement, les contingents actuels sont... Nous n'avons pas pu respecter le calendrier. Sinon, c'était même le jour de ma propre investiture qu'il y avait la passation du pouvoir. Et puis aussi, il y a une autre contrainte. Parce que nous entendions avoir la présence des chefs d'État. En l'occurrence, le président du Sénégal n'était pas libre puisqu'il avait un engagement, alors que c'est le président du groupe de contact. Si bien que nous avons fait des cérémonies, je ne pense pas que ce soit bizarre.
Pourquoi avez-vous choisi Zida comme Premier ministre?
M. Isaac Zida a joué un rôle énorme dans la pacification, si j'ose l'appeler ainsi, de ce pays. Parce que, figurez-vous, M. Zida fait partie du groupe de jeunes officiers qui, devant les dangers, ont préféré pactiser avec la population et refuser délibérément d'utiliser leurs armes. Nous considérons de tels militaires, de tels jeunes comme des patriotes. Et moi, personnellement, je pense qu'avec ce qu'ils ont fait, il est normal qu'ils puissent être à nos côtés, qu'ils nous accompagnent jusqu'à la fin de notre mandat, qui est d'organiser des élections en 2015. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas une éclaircie totale, hein, parce que nous sommes dans une situation apparemment claire. Il n'y a pas une éclaircie totale. Il faut que l'armée nous accompagne. Et ceux qui peuvent nous accompagner, c'est ceux-là qui ont accepté, lorsqu'il y a eu une insurrection populaire, de ne pas sacrifier des vies humaines.
Il y a des voix qui disent qu'il y aura dualité au sommet du pouvoir. Entre vous et Zida, qui est-ce qui détiendra réellement le pouvoir?
Je peux certifier, M. Fall, qu'il n'y aura pas de dualité. Nous savons ce que nous allons faire. À ce niveau-là, nous comprenons parfaitement. Et c'est quand même dommage que les gens veuillent à tout prix à chaque fois interpréter les situations. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous avons un travail à accomplir. Et dès que nous allons former le gouvernement, nous allons nous mettre au travail. Faire en sorte que ce que nous avons comme programme soit exécuté et que nous allions aux élections de 2015 dans la sérénité et dans la transparence. Il n'y a pas de dualité entre le Premier ministre et le Président. Il n'y en a pas. Mais c'est les gens qui s'évertuent à vouloir en trouver. Là où, comme je vous dis, nous n'avons aucun problème entre le président et le premier ministre.
Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre site voaafrique.com.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga
et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada. Au Mali, le chef de file de l'opposition demande au président Ibrahim Boubacar Keïta de fermer la frontière guinéenne pendant un mois afin de limiter l'introduction et la propagation d'Ebola dans le pays. Soumaïla Cissé rejette par ailleurs le document proposé par l'Algérie et dénonce ce qu'il a qualifié de clientélisme et favoritisme au sein de l'administration. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse hier à Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré était sur place.
Soumaïla Cissé du parti Union pour la République et la démocratie IRD a tenu une conférence de presse. D'entrée de jeu, il a demandé au président Ibeka de fermer la frontière guinéenne.
Le Mali est un pays qui a au moins 7 frontières. Nous avons dit et constaté que tous les cas de maladie Ebola viennent de la Guinée. Ça veut dire qu'il y a un contrôle largement insuffisant et quand on connaît les péripéties qui ont fait rentrer les malades, cette frontière que j'ai dit de fermer temporairement pour un mois pour permettre aux services de santé d'être mieux occupé et mieux organisé, ce qui est malheureusement pas le cas.
D'après lui, le Mali, en fermant la frontière à partir de Kouré-Malé, pourra éviter l'enregistrement de nouveaux cas d'Ebola.
Il faut éviter qu'il y ait un troisième, un quatrième, un cinquième cas. Cela s'obtient en fermant les frontières. Ensuite, pour que cela soit durable, il faut que les frontières soient mieux équipées, que le personnel sanitaire soit mieux équipé. Ensuite, pour les cas suspects et les malades, malheureusement, il y a encore un malade, il faut que nous distribuions plus de matériel et plus d'équipement au personnel de la santé à l'intérieur. On a besoin de réorganisation, donc on a besoin de supprimer un cas, un point faible. Et ce point faible, c'est la frontière guinéenne.
Les challengers d'Ibeka rejettent le document de synthèse pour parler d'Alger, dont la quatrième phase s'ouvre ce dimanche à Alger.
Nous avons pensé que ce n'est pas un bon document. Le cheminement n'est pas bon et la façon dont les préambules et les a priori sont posés ne sont pas corrects, ne font pas avancer le débat. Nous avons proposé un autre chemin qui tient compte d'abord de la géopolitique de façon générale. Ensuite, nous avons dit qu'il faut d'abord régler les problèmes au niveau des collectivités. Quelles sont les collectivités? Comment elles vont fonctionner? Et identifier les collectivités concernées. Je pense que ça permettrait aux différents groupes de se retrouver et de savoir de quoi on parle.
Évoquant la situation économique et les questions de gouvernance, Soumaïla Cissé compare le Mali au Titanic en difficulté.
Le Titanic est un exemple mythique. C'est évident que le commandant de bord a failli ce jour-là et qu'aujourd'hui, nous avons un bateau qui est important, c'est le Mali, avec ses 15 millions d'habitants avec sa riche culture, sa riche histoire qui est en train d'aller à volo. Et je crois qu'aujourd'hui, le président de la République et le capitaine de ce bateau est fortement interpellé. Il n'est pas trop tard. Il faut ou arrêter les machines, ou faire marche arrière, ou virer à tribord ou à bâbord.
Cette conférence de presse se tient en prélude aux travaux du 3e congrès ordinaire de l'URD, au terme desquels Soumaïla Cissé va prendre la tête de cette formation politique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Apparition du virus Lassa au Bénin, ce virus qui est à l'origine des 4 décès enregistrés récemment à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, dans le nord du pays. La ministre béninoise de la Santé l'a annoncé ce jeudi lors d'un point de presse, en compagnie du représentant résident de l'OMS au Bénin. La ministre devait rendre public les résultats de sa mission de quelques jours dans ce centre hospitalier. Écoutons Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant à Cotonou.
Après l'annonce des 5 cas de décès survenus à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, dans le nord du Bénin, la ministre béninoise de la Santé a conduit une mission d'investigation dans l'hôpital. Les analyses des prélèvements ont révélé 2 cas positifs à la fièvre hémorragique Lassa, voisine du virus Ebola. Dorothée Akokoké-Negazar.
La fièvre de Lassa, c'est également une maladie virale, mais moins létale, c'est-à-dire qui cause beaucoup moins de décès que la fièvre à virus Ebola. C'est également une fièvre hémorragique. Donc les symptômes sont pratiquement voisins.
Contrairement au virus Ebola, le virus Lassa dispose d'un traitement pour en venir à bout, la ribavirine, mais qui n'est pas disponible pour l'instant au Bénin. Et la ministre dit prendre certaines mesures, non seulement pour sa mise à disposition, mais aussi et surtout pour prévenir des cas de contamination. Dorothée Akokoké-Negazar.
Dès que nous avons eu les résultats, nous avons lancé un appel à nos partenaires, à nos laboratoires, pour commander le médicament qui arrive au Bénin demain. Mais je voudrais préciser qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucun cas actif, c'est-à-dire nous n'avons pas de malades actuellement.
Le représentant résident de l'OMS au Bénin, pour sa part, va expliquer comment l'organisme compte aider le Bénin à faire face à cette nouvelle épidémie. Youssouf Gamatier.
Il y a des spécialistes de l'OMS qui sont déjà sur le terrain, qui sont venus de la région africaine, qui sont venus du siège de l'OMS. Nous avons une collègue du CDC également qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle de reconstituer la chaîne de transmission.
Le Bénin entend alerter la communauté scientifique internationale afin de l'aider à circonscrire le mal. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est aujourd'hui le 25e anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant et pour l'occasion, Nathalie Barge a joint à Genève un membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, le professeur en droit public international Jorge Cardena. Il estime que les tribunaux des droits humains régionaux doivent être renforcés, surtout en Afrique.
Chaque année, tous les États doivent venir au comité pour nous raconter ce qu'on fait en matière de respect et d'application de la Convention. Tous les États doivent venir chaque 5 années au comité, seulement pour qu'ils doivent nous expliquer, pour qu'ils soient conscients qu'ils seront contrôlés. Seulement pour ça, ça signifie bien sûr un pas en avant dans le sens que quand on parle avec tous les États du monde, sans exception, on voit que toujours ils ont fait des progrès.
Quel type de progrès ont été réalisés en Afrique au cours des 10 dernières années, et y compris dans tous ces pays qui connaissent des situations vraiment très instables?
Si on voit la réalité des dernières années, on voit des progrès, bien sûr. Par exemple, on va prendre la question des enfants soldats dans les conflits armés. Tout le monde connaît qu'aujourd'hui, qui recrute des enfants soldats peut finir devant les tribunaux. Et on a vu comment on réduit clairement le recrutement des enfants dans beaucoup de États. C'est vrai qu'il existe la violence contre les enfants dans la famille, dans l'école, en Afrique, et qu'il y a une culture de violence dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai aussi qu'on a travaillé beaucoup avec les leaders sociaux, avec les leaders religieux, pour faire de conscience aux citoyens, pour parler, pour essayer de changer la mentalité.
C'était Jorge Cardena, professeur en droit public international, qui était joint par Nathalie Barge.
Il faut dire aussi que suite de la violente tempête de neige qui frappe l'État de New York dans le nord-est des États-Unis, de nouvelles chutes de neige sont attendues aujourd'hui sur Buffalo. 8 personnes sont déjà mortes depuis le début de la tempête. Nicolas Pinot.
La 8e victime annoncée ce jeudi par les autorités est un sexagénaire décédé d'une crise cardiaque. De nombreuses routes étaient toujours fermées à la circulation pour permettre aux autorités de dégager les centaines, voire les milliers de véhicules abandonnés sur les routes et le réseau secondaire. « Restez chez vous », a encore insisté lors d'une conférence de presse le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, demandant aux automobilistes de respecter l'interdiction de circuler pour permettre les opérations de déneigement.
Nous faisons venir des centaines d'équipements à travers tout l'État. Nous avons demandé aux États voisins de l'aide en équipement pour suppléer les équipements qui viennent.
Plus d'1,50 m de neige est tombé dans certains secteurs de Buffalo en 24 heures, autant qu'en une année. Cette tempête historique est due en partie à la proximité du lac Erie. Certains automobilistes sont restés 2 jours bloqués dans leur véhicule. Nous commençons enfin à bouger 50 heures plus tard, a ainsi écrit le groupe de musique new-yorkais Interpol sur son compte Twitter. Prisonnier de la neige, il a dû annuler 2 concerts à Toronto et Montréal. Darlene Gubala habite depuis de longues années à Buffalo. Elle essaie de relativiser.
It's not as bad as 1977, but it's pretty bad. Especially with all the,
Ce n'est pas pire qu'en 1977, mais c'est grave, surtout à cause des fermetures de routes et des interdictions, etc. C'est un peu plus dur pour les gens de circuler.
Oh! Oui. Oh. I'm doing it.
Finalement, il n'y a que les enfants pour se réjouir de la situation. Bataille et bonhomme de neige, les plus jeunes s'en donnent à cœur joie. Haken Logan, un père de famille, a transformé le porche de sa maison en piste de luge.
C'est le pire que j'ai jamais vu, mais nous sommes chanceux. Si vous allez plus loin, à 10 pâtés de maison, c'est bien pire. On essaie de voir le côté positif avec la luge.
De nouvelles chutes de neige jusqu'à 60 cm par endroit sont attendues jeudi selon la météo américaine. La température ne devrait pas remonter avant dimanche.
On enchaîne avec les sports et on retrouve Bagassi Koura. Bonsoir.
Oui, bonsoir Camille. Bonsoir, comment vous appelez? Chérouvin, bonsoir à tous.
Alors Bagassi, on connaît les pays qualifiés pour la Cannes 2015.
Il est tellement content que les étalons soient qualifiés, Camille.
Voilà, il en perd les mots.
Allez. Oui, quand on dit étalon, on dit aussi vice-champion d'Afrique. Hein. Donc, les qualifiés, on les connaît depuis hier. C'est donc l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale et la Guinée-Conakry, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. Et Chérubin, il faut ajouter que la plus grosse déception est venue du Nigeria. Le champion d'Afrique n'a pas pu se qualifier en concédant ce nul 2-2 contre l'Afrique du Sud. Le Congo-Brazzaville, qui était incertain à un moment donné, a pu se qualifier en battant le Soudan 1-0. À Bamako, le Mali a battu l'Algérie 2-0. On écoute Henri Kasper-Zak, le sélectionneur des Aigles.
Aujourd'hui, je dirais bravo aux joueurs, pas uniquement par les résultats, parce que c'est vrai qu'on a retrouvé l'efficacité offensive, mais aussi on a retrouvé une équipe très soudée, équipe qui a joué avec beaucoup de détermination, qui a démontré qu'elle est capable de faire encore beaucoup, beaucoup mieux. On est soulagé.
Voilà, on est soulagé. Parole de Henri Kasper-Zak, sélectionneur des Aigles du Mali. Et la Côte d'Ivoire, elle, s'est qualifiée pour le tournoi en Guinée équatoriale. Hier après-midi, à Abidjan, les éléphants ont arraché un nul face aux Lions Indomptables du Cameroun, 0-0. Mais la fin du match a fait beaucoup de bruit depuis hier et même aujourd'hui. Pendant près de 4 minutes, les éléphants ont cessé de jouer, gardant la balle dans leur camp. La RDC a pu se qualifier, elle aussi, par une large victoire 3-1 contre la Sierra Leone, ce qui lui a permis donc d'être classé meilleur troisième. Et donc d'être racheté.
Alors Bagassi, l'autre exploit, c'est la Guinée. Elle s'est qualifiée en ayant joué tous ses matchs à l'étranger. Et bien sûr, c'est à cause de l'épidémie d'Ebola.
Oui, bravo, hein, bravo au Sili National donc, qui a battu hier l'Ouganda 2-0. On écoute cette réaction de joie à Conakry.
On est très très content de notre équipe, ils ont bien joué, ils ont mérité leur victoire.
Ah, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait content, vraiment, ça nous rend joyeux.
On a une équipe qui est bien, qui a la qualité, ils nous ont donné le courage pour les supporters.
Nous sommes très fiers de ce score.
Voilà, des propos recueillis par Zakaria Kamara à Conakry. Enfin, notons que le Burkinabé Jonathan Pitroapa, n'en déplaise à Chérubin, est sorti meilleur buteur de ces éliminatoires avec 6 réalisations.
Et on termine avec le championnat nord-américain de basketball, les résultats de la NBA.
Oui, San Antonio a battu Cleveland 92-90. Charlotte a pris le dessus sur a perdu donc face à Indiana. Charlotte a perdu face à Indiana 86-88. Les Los Angeles Clippers ont battu Orlando 114-90. Victoire de Boston sur Philadelphie 101-90. Dallas a battu Washington 105-102. Et 122 pour Milwaukee devant Brooklyn, 118. Phoenix a battu Détroit, 88-86. Toronto a dominé Memphis, 96-92. Minnesota a battu New York, 115-99. Et enfin, Denver a battu Oklahoma, 107-100.
Et on nous parle de Noah Baby Flavor. C'est certainement la note musicale de clôture.
Chérubin, je crois que ce soir, ce n'est qu'une note. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés. Au micro, Camille Grosdidier.
Et Chérubin Orsil.
C'était Le Monde aujourd'hui. Waka waka baby, oh yeah. Uru uru baby, oh yeah. Kona kona baby.